À tous, étant donné qu'on me fait l'honneur de m'avoir invité pour le culte de tout à l'heure, le culte pour l'église vietnamienne, qui sera donc traduit du français vietnamien, et que mon thème pour l'église le culte en vietnamien, c'est le thème sur la grâce, alors je me suis dit qu'il était assez harmonieux de commencer par la foi, et pour ensuite, si vous êtes encore présent dans une heure, et bien de pouvoir compléter avec le thème de la grâce. Les deux versets qui viennent de nous être lus par Lucas démontrent l'importance capitale de nos rapports, de la foi dans nos rapports avec Dieu. Dieu est esprit, est invisible. De ce fait, dans nos relations avec lui, obligatoirement, nous marchons par la foi et non par la vue. Comme dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens, la deuxième, chapitre 5, verset 7. Les Juifs réclament des miracles, les Grecs la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, tout ce que nous apprenons de Dieu, nous le recevons par la foi, c'est-à-dire en croyant. Quand vous ouvrez votre Bible et que vous lisez la Bible, vous allez recevoir quelque chose si vous croyez ce que vous êtes en train de lire. La question qu'il faut se poser, c'est tous ont-ils la foi? La foi, comme la vue, le regard que nous avons, les yeux que nous avons, est une entité intangible. La foi est simplement le fait de croire, comme la vue est le fait de voir. Qu'il y a des gens qui pensent que la foi, c'est compliqué. Non, la foi, c'est simplement le fait de croire. Croire en ce qu'on est en train de lire, croire en ce qu'on est en train d'entendre, comme la vue voit les choses, tout simplement. Si nous voyons un objet, nous savons que nous possédons la vue. De même, si nous croyons à quelque chose, nous savons que nous avons la foi. Je suis entré dans cette église et je me suis assis sur un banc. J'ai eu la foi dans le banc. Je me suis dit, le banc va me porter. Vous êtes tous assis parce que vous avez foi dans le banc. Vous savez que si vous asseyez là, vous n'allez pas vous retrouver par terre. Donc, dans ce sens, tous les êtres humains ont la foi. Et nous exerçons cette foi chaque jour de mille et une façons. On tourne le robinet du gaz, on sait que avec une flamme, avec une bougie, avec une allumette, on aura une flamme. On appuie sur l'interrupteur électrique, on a la foi qu'on va voir la lumière. Ça, c'est la foi commune, la manière dont nous vivons chaque jour. Nous allons au travail, nous avons la foi qu'à la fin du mois, nous recevrons notre salaire. Ça, c'est l'expression d'une foi. Alors, que veut dire Paul, l'apôtre Paul, quand il écrit « tous n'ont pas la foi » en 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 2. Alors là, évidemment, dans ce texte, il s'agit d'une foi spécifique en Jésus-Christ, comme Sauveur et Seigneur. Et tous les êtres humains n'ont pas cette foi-là. Le mot « foi » qui est utilisé dans le Nouveau Testament peut se résumer comme étant le contenu de l'enseignement chrétien. Ce en quoi les chrétiens croient. Quand un chrétien dit « j'ai la foi », dans un premier temps, il va dire « j'ai la foi dans ce que Dieu a dit dans sa parole », dans ce qui est écrit dans la Bible. Ainsi, on disait de Paul après sa conversion, « il annonce maintenant la foi qu'il voulait alors détruire », en Galates chapitre 1, verset 23. Et l'apôtre Jude écrit que nous devons combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Dans les deux cas, il s'agit d'un corps de doctrine, d'un ensemble de vérités qui doit être connu, maintenu et enseigné. C'est ce qu'on appelle la foi objective. C'est un document, la Bible, qui est à l'extérieur de nous-mêmes, qui a 44 auteurs différents, et qui du coup est un document objectif par rapport à une foi subjective, la foi personnelle. Hein, quand quelqu'un nous dit « j'ai foi dans telle ou telle chose », on va lui dire « c'est subjectif ». Quand on lui dit « j'ai foi en Jésus-Christ », il va dire « bon, C'est ta foi, toi, c'est subjectif, moi je crois en tout. Donc il y a foi objective et foi personnelle, qu'on appelle donc la foi subjective, la foi personnelle. Dans le sens d'une foi objective, la foi évangélique, c'est l'ensemble de l'enseignement qui découle de l'étude de l'évangile, c'est-à-dire de la Bible. Donc quand quelqu'un nous dit, j'ai la foi en Jésus-Christ, et qu'il nous dit c'est ta foi à toi, c'est subjectif, on va lui dire, ben oui, mais ça repose, admettons que c'est une Bible, ça repose sur un document objectif, la Bible. Donc ma foi, elle est personnelle, elle est subjective, mais elle repose sur un document objectif, c'est à l'extérieur de moi. Donc la foi subjective se définit comme la foi d'une personne, sa conviction, sa confiance, son engagement de foi, le fait que cette personne croit. Alors c'est très intéressant parce que quelqu'un peut avoir une conviction, c'est-à-dire une foi subjective très forte, très ferme, concernant une croyance qui serait objectivement une erreur. De même, il est possible d'avoir une foi très faible, une foi personnelle très faible et incertaine, dans une vérité objective qui, elle, vient de Dieu. C'est pour ça que les apôtres ont dit « augmente en nous la foi ». Ils avaient une foi un peu faible, ils ont dit « augmente en nous la foi ». Ils croyaient dans le Christ, mais ils se rendaient bien compte qu'ils n'avaient pas une foi extraordinairement forte. L'important dans la foi, ce n'est pas tant l'intensité de la conviction intérieure, mais bien l'objet de la confiance. Ce en quoi je crois ou ce en qui je crois est-il digne de foi? Est-ce qu'il est vrai? Alors il y a une histoire qui a été racontée par un missionnaire. Il a dit que dans un pays lointain, pour traverser un fleuve, les indigènes avaient construit un pont en corde à côté d'un pont de bois qui était délabré et il en devenait dangereux ce pont en bois. Et il y a un couple de missionnaires qui voulaient traverser le fleuve. Alors l'homme, il s'engage de bon cœur sur le pont en bois, convaincu qu'il le soutiendrait bien jusque de l'autre côté de la rive. Et ce missionnaire se retrouve dans l'eau, malgré sa forte foi. Il avait foi dans le pont en bois. Il a emprunté le pont en bois, il s'est retrouvé dans le fleuve. Par contre, sa femme, elle choisit le pont fait de cordes. Et toute tremblante et craignant de tomber à l'eau, à tout moment, elle s'avance doucement pour le traverser. Et ce pont de cordes tient bon, et elle arrive saine et sauve de l'autre côté de la rive. Elle était craintive, précisément parce que sa foi en la solidité de ce pont de fortune était faible. Elle a emprunté le bon pont qui a résisté, le pont en corde, mais elle a été quand même craintive. Mais elle a eu raison. Donc vous voyez, c'est pas tellement l'intensité de la foi qui compte, mais c'est là où on la place ou en qui on la place. Comme je vous l'ai dit, elle a réussi à la traverser malgré sa faible foi. C'est surtout parce que l'objet de sa foi était, malgré les apparences, capable de la porter. Mais si nous croyons même fermement à un mensonge, nous serons perdus. Si nous croyons même très faiblement à la vérité, nous serons sauvés. Vous voyez la différence? C'est pas la foi dans la foi, mais c'est la foi dans la personne ou dans l'objet qui va déterminer les choses. Alors qu'est-ce que c'est que la foi qui sauve? La foi qui sauve, c'est la foi que l'on place en Jésus-Christ, d'après le message des Saintes Écritures. La Bible dit que notre salut dépend de la foi. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Dieu, dans sa grâce, a tout prévu pour nous offrir un salut gratuit. Le moyen de recevoir ce salut est la foi. Ce n'est pas par le moyen des bonnes œuvres, puisque Paul va dire dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 16, « L'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. » Et à la question capitale qui a été posée, Que faut-il que je fasse pour être sauvé? La réponse des apôtres est la suivante. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 30-31. Et l'annonce du salut dans le livre des Actes se termine par un appel à la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez comment le texte biblique nous donne l'enseignement. Foi en Dieu, le Père, notre Créateur, foi en Dieu, et en même temps, vis-à-vis de Dieu, le Père, et puis on place notre foi en son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu fait homme. Et c'est exactement le message de repentance et de foi qu'annonce Jésus-Christ. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 15, il répète continuellement dans les évangiles, d'une manière ou d'une autre, et en particulier dans l'évangile selon Jean, « Quiconque croit en Christ a la vie éternelle. » Jean, chapitre 3, versets 14 et 16. « Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean, chapitre 5, verset 24. Et puis en Jean 6, 47, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. » Et tout le contexte, c'est croire, évidemment, en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le verset qui a été lu en Jean chapitre 3, verset 36, résume tout à fait le message de l'Évangile et de la foi. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais l'inverse est aussi vrai. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. En Jean chapitre 3, verset 18. Car étant pécheur, s'il refuse le Sauveur, il est déjà sous la sentence du jugement. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. Vous voyez, dans le même ensemble de paroles du Christ, on se trouve avec d'un côté le salut, de l'autre la perdition. Et c'est une question de foi. Pourquoi ? Parce que pour être agréable à Dieu, on ne peut pas être agréable à Dieu sans avoir la foi. Un minimum de foi, toute faible, dans le fait que Dieu existe et qu'on se tourne vers lui pour justement être sauvé. Donc le fait d'être sauvé ou perdu dépend donc de la foi en Jésus-Christ. La foi, comme l'amour, est un sentiment dont tout être humain est capable. Même les enfants sont capables de foi et sont capables d'amour. Cependant, un certain degré de connaissance est indispensable. Pour ça que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, verset 14, il dit « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» Il faut quand même un minimum de connaissance pour placer sa foi dans le Sauveur. Si personne n'annonce aux autres que Christ est le Sauveur, et en expliquant pourquoi, les gens vont dire « Je ne savais pas, j'ignore ». Et dans le contexte de cette citation, l'apôtre Paul raisonne d'une manière très logique. On ne peut être sauvé que par la foi en Christ, et pour avoir cette foi, il faut d'abord entendre l'évangile de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, dit l'apôtre dans l'Épître aux Romains. Et pour que les gens entendent l'évangile, ceux qu'ils connaissent doivent le faire connaître. Voilà pourquoi Jésus, après avoir accompli l'expiation de nos péchés par sa mort et sa résurrection, envoie ses disciples prêcher cette bonne nouvelle au monde entier, promettant que ceux qui croiront seront sauvés. On voit ça dans l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 15 à 16. La foi qui sauve n'est donc pas une foi vague sans contenu. Ce n'est pas se convaincre qu'on est sauvé, ni avoir la foi en sa propre foi. C'est vraiment avoir la foi en ce que Dieu nous dit. Et ce que Dieu nous dit, c'est que son Fils est notre Sauveur et qu'il a payé le prix de nos péchés pour nous. Donc il y a un contenu à notre foi. Quand on nous demande, comme dit l'apôtre Pierre, répondez avec douceur à ceux qui vont demander des comptes à votre foi. On va expliquer pourquoi on croit. Vous savez, moi, quand j'étais très jeune, j'étais toujours étonné quand je posais la question sur la foi, la vie éternelle, Dieu, ma famille, mes parents, ils ne savaient pas quoi répondre. Ils ne savaient pas quoi répondre, ils m'ont jamais donné de réponse correcte, sensée, intéressante. Ils n'avaient rien à dire, ils avaient dit, tu dois croire, un point, c'est tout. Puis si tu crois pas, c'est pas bien, et bon, quand vous avez une matière grise, une intelligence que Dieu vous a donnée, c'est la moindre des choses que Dieu vous donne des renseignements. Sinon, ce sera un non-sens que Dieu nous donne une intelligence et qu'il réponde pas à nos questions. Eh ben si, Dieu répond à nos questions. Et nous devons apprendre en tant que chrétiens à communiquer l'évangile. La véritable foi est celle des premiers chrétiens dont il est écrit, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en Christ vous avez cru. Éphésiens chapitre 1 verset 13. Il leur dit tout simplement, après avoir entendu la parole de vérité, vous, l'évangile de votre salut, en Christ vous avez cru. Il faut donc bien enseigner, partager la parole de vérité. L'écoute et la connaissance de l'évangile mènent à la foi en Christ. À Corinthe, Paul prêche l'évangile, et qu'est-ce qu'il dit au chapitre 1, verset 15, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, il dit « Christ est mort pour nos péchés ». Il prêche la croix de Christ, bien qu'elle paraisse une folie aux yeux des païens. Mais il prêche cette folie car il sait qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et vous noterez bien le fait que ce sont des croyants qui sont sauvés. Il faut donc croire en Dieu pour être sauvé. C'est très curieux, il parle de païens, il a dit c'est des croyants. Oui, parce que quand on se met à l'écoute de l'évangile, même si on n'est pas né de nouveau, on commence à y croire. Et c'est parce qu'on commence à y croire, justement, qu'un jour, on demande pardon à Dieu, on confesse nos péchés, et on naît de nouveau. Et là, on sait qu'on est sauvé, qu'on est né de nouveau. Mais on a commencé par croire. Imperceptiblement, des fois, sans s'en rendre compte. Je me souviens, dans mes recherches avant de devenir chrétien, j'écoutais les gens qui parlaient de la Bible, je posais des questions, je réfléchissais, et petit à petit j'ai commencé à croire en certaines choses de la Bible, et pas dans tout, mais petit à petit, plus ça allait, plus je croyais plein de choses. Jusqu'au jour où j'ai dit, mais pourquoi je crois tout ça et je veux pas croire ça? C'est-à-dire que je suis un pécheur, la repentance, que le Christ est le seul sauveur. Mais j'avais déjà commencé à croire en beaucoup de choses. J'étais donc un croyant perdu. Et qui est devenu un croyant sauvé, je suis né de nouveau. C'est pour ça que Jacques va dire dans son épître, tu crois en Christ, t'as raison, les démons aussi, et ils tremblent. Parce que les démons, ils croient en Christ, sauf qu'ils veulent pas se repentir, donc du coup, ils tremblent, parce qu'ils savent très bien ce qui les attend. Le message de la croix, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais il est aussi une pierre d'achoppement pour les orgueilleux. C'est pour ça que quand on annonce l'évangile, des fois on se demande pourquoi les gens ne croient pas. On leur explique. On passe du temps avec eux, on prie pour eux, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais je ne sais pas comment vous êtes convertis, mais souvenez-vous peut-être de votre conversion. Ça s'est peut-être pas fait comme ça d'un seul coup. Il faut du temps. Pourquoi? Parce que apprendre qu'on est pécheur et perdu, c'est pas toujours évident à accepter. Apprendre qu'il n'y a qu'un seul sauveur, le Christ, c'est pas toujours facile à comprendre et aussi à accepter. Parce que ça veut dire que tout le reste ne compte pas. Tous les autres personnages religieux, historiques, ne comptent pas. Il y a un seul sauveur. Donc c'est pas toujours évident. On nous a tellement dit qu'il faut croire en plein de choses et pas une unique foi. C'est surprenant. Mais il y a aussi de l'orgueil. Parce qu'on ne veut, parfois, on ne veut pas se soumettre à Dieu. On ne veut pas reconnaître qu'on est perdu et pécheur. Alors ceux-ci, les orgueilleux, bien souvent ne veulent pas admettre qu'ils sont des pécheurs ayant besoin de salut. Ils se croient bons et justes. Mais même s'ils sont prêts à reconnaître leur besoin de salut, ils préfèrent gagner leur salut à force d'efforts personnels. C'est assez étonnant. Je connais des gens qui me disent, oui, je sais, je suis pas saint, je suis pas parfait, mais je vais faire tous mes efforts pour plaire à Dieu. Mais le message de l'évangile, c'est croire et la foi en Christ. Et eux, ben, comme ils veulent pas se abdiquer, dans le fond. Vous savez, il y a un grand prédicateur américain, Billy Graham, qui a dit, on lui a dit, mais pourquoi les gens se convertissent pas? C'est parce qu'ils ne comprennent pas l'évangile. Et Billy Graham a répondu, c'est pas qu'ils comprennent pas l'évangile, c'est qu'ils le comprennent trop bien. Ils ont compris qu'en comprenant l'évangile, il va falloir se soumettre à l'autorité de Christ dans leur vie. Ils ne veulent pas être dirigés par Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu vienne mettre sa main dans leur vie. Et il a dit, ne croyez pas que les gens ne comprennent pas l'évangile. Au contraire, ils comprennent parfaitement l'évangile. Et c'est parce qu'ils l'ont bien compris. Ils ont compris qu'en devenant chrétien, né de nouveau, on devient disciple du Christ. Donc on devient des témoins. On est appelé à une obéissance. On est appelé, comme on l'a chanté, à avoir un roi tout puissant au-dessus de nous qui va diriger nos vies. Et il dit, c'est ça qu'ils ne veulent pas. Ils ont parfaitement compris l'enjeu que propose l'évangile. Et c'est pour ça que les gens essayent de gagner leur salut par les œuvres au lieu d'accepter simplement par la foi qu'ils sont perdus et de recevoir ce cadeau de Dieu. L'orgueil les maintient dans l'incrédulité et donc dans la perdition. Et en plus de la connaissance de l'évangile, il faut donc de l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles, en Jean chapitre 4, verset 6. Là est tout l'enjeu de la conversion. Où je résiste à Dieu parce que je refuse son autorité sur ma vie, ou j'avance avec humilité en reconnaissant que j'ai besoin d'être sauvé, que j'ai besoin de Dieu et que j'ai besoin de devenir quelqu'un d'obéissant vis-à-vis de Dieu. Et tout l'enjeu est là. C'est pour ça qu'il est dit, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce qui se saisit de la grâce, c'est la foi. C'est la grâce qui nous sauve, mais pour saisir la grâce, il faut avoir la foi dans ce que Dieu nous propose. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Par contre, comme vous le savez, Dieu nous sauve pour nous conduire dans la pratique de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alors que Dieu donne à chacun d'entre nous la foi qui sauve, si vous ne l'aviez pas encore, et puis la foi aussi du disciple qui se soumet et qui laisse le Seigneur diriger sa vie. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen.